marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
L'histoire mouvementée de la langue des signes.
Platon fait dire à Socrate, si nous n'avions point de voix et que nous voulussions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas, comme le font les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps ? Voici Paul, 17 ans, un sujet exceptionnel. Il a appris mon langage des signes en moins de 2 mois. Demandez-lui, mon père, à quoi sert un violon ?
Qu'a-t-il répondu ?
Le peintre Watteau avait plus de plaisir à voir un violon qu'à l'entendre. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue ?
Comme ça !
L'abbé de l'épée dans le film Ridicule. La figure de ce grand personnage de la deuxième moitié du XVIIIe siècle a polarisé la mémoire de la langue des signes. C'est en effet à lui qu'elle doit sa place centrale dans la formation des sourds-muets, de même que l'Institut légendaire de la rue Saint-Jacques à Paris lui doit son existence. Après la mort de l'abbé, une famille s'était constituée, composée de plusieurs générations de professeurs sourds qui enseignaient à des élèves sourds, lesquels, vivant en commun, ne se sentaient pas anormaux et s'avéraient souvent bavards comme des pies. Bavards dans la langue des signes, évidemment. Mais l'histoire de celle-ci a été beaucoup plus heurtée qu'on ne l'imagine aujourd'hui qu'elle a retrouvé une reconnaissance. L'abbé de l'épée, de son vivant, avait provoqué bien des polémiques. Et sa famille avait été ensuite traversée de beaucoup de divisions. Il faut rappeler qu'un siècle après sa mort, ses choix ont été récusés. Dans la plupart des pays occidentaux, l'enseignement des sourds par la langue des signes a été aboli. En 1887, rue Saint-Jacques, les derniers enseignants sourds ont été mis à la retraite. La langue des signes est alors frappée du sceau de l'infériorité et les sourds fermement invités à oraliser, quoi qu'il leur en coûte. Tirant le bilan de cette période qui va les marginaliser dans l'échec scolaire, voire l'illettrisme, ils parleront d'un siècle de grande noirceur. Inversement, leur retrouvaille, au grand jour, à la fin du XXe, avec la langue des signes, sont qualifiés par eux de « grand réveil ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Karel Menin, bonjour.
Bonjour Jean.
Je ne sais comment définir vos métiers. Je vous ai connu journaliste de radio, vous êtes documentariste, commissaire d'exposition, enfin ça c'est un mot que vous récusez très certainement. Qu'est-ce qui vous a amené à cette question de la langue des signes? On entendra tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, les reportages que vous avez rapportés de Ouagadougou.
En fait, je pense que ce qu'il y a de commun entre la jeune journaliste que j'ai été chez vous, d'ailleurs Jean, il y a quelques années de ça, et ma passion aujourd'hui pour la langue des signes, c'est le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, il passe par la langue. Alors elle peut être phonique, la radio, elle peut être orale, gestuelle, physique, et elle peut être écrite, la littérature. Tout ça, en fait, me passionne parce que c'est le lien qu'on a à l'autre. Mais il y a un mot que vous avez utilisé dans votre prélude que je trouve intéressant, qui est la question de l'infériorité. Et j'ai le sentiment que ce qui m'intéresse justement, c'est d'aller voir du côté de ces langues que l'on dit inférieures ou minoritaires. On pourrait, d'une certaine façon, dire que la radio est aussi un média minoritaire dans le poids audiovisuel aujourd'hui. Et donc, c'est une passion pour le rapport à l'autre dans la complémentarité de ce que je peux être moi, de ce qu'il m'apporte.
On n'imagine pas, depuis le réveil des sourds, depuis que, en 1993, on a vu Emmanuel Laborie, au moment des Molières, devant la caméra de télévision, dessiner le signe union. Elle parlait de la réconciliation nécessaire des entendants et des malentendants, que, en 1880, a été mis fin à l'effort né de l'abbé de l'épée aux générations d'expérimentateurs qui l'avaient suivi à l'issue d'un congrès international qui s'est tenu à Milan, qui n'était pas un congrès de policiers, qui était un congrès d'experts destiné en principe à l'amélioration du sort des sourds-muets.
Oui, alors le mot expert, il pourrait être...
Il est anachronique.
Oui, voilà. Puis disons que c'est plus que des experts. En fait, le congrès de Milan de 1880, il vient entériner deux congrès qui ont eu lieu en France une et deux années précédentes, qui ont eu lieu à Paris et en France, où on est déjà dans l'idée qu'il faut oraliser les sourds. Pour d'ailleurs, ce qu'on entendait sur la version platonienne, hein, c'est-à-dire ce sont une sous-communauté, et donc l'oralisation va leur permettre l'éducation et donc la citoyenneté. Et du coup, ce congrès, il est signé d'avance, puisque il y a 255 participants, dont 156 Italiens et 66 Français. Il y a trois sourds et pas de traducteur. Donc la décision est déjà prise de forcer la main à ce qui va être nommé comme l'interdiction de la langue des signes, qui va se généraliser dans tous les pays de l'Union européenne.
Qui n'existe pas encore.
Non, de la géographie, effectivement, de la géographie européenne. Mais en fait, ce congrès, il va faire un mal de chien à cette langue, parce qu'il va non seulement la ramener à un statut de langue d'une minorité, d'une langue de handicap, mais surtout d'une langue qui n'a pas le droit d'exister.
Mais est-ce qu'on peut interroger davantage les motifs qui ont poussé à cette interdiction, à cette abolition ? La langue des signes, elle est considérée comme un vestige du passé. Ce sont des hommes de progrès qui décident de promouvoir l'oralisation ?
Alors, les motivations, elles sont assez étranges. Alors, il y a d'abord le fait qu'on va considérer que la langue des signes, c'est la langue des singes, qu'elle est mimique, donc c'est une sous-langue. Donc, du coup, elle ne permet pas l'adresse à Dieu, par exemple. Donc, ça pose un problème. Et puis, parmi les raisons qui vont être invoquées, il y a le fait que la langue orale favorise la respiration. Et du coup, c'est très important pour des questions physiologiques de parler et respirer. Ça évite des problèmes pulmonaires. C'est d'ailleurs une preuve de la méconnaissance qu'ils avaient à l'époque de la langue des signes. Parce que quand on signe, on respire aussi. On n'est pas en état de non-respiration. Et puis, il y a aussi peut-être en filigrane l'idée que cette langue des signes, elle est érotique, elle est sensuelle, elle pose un problème dans ce qu'on aimerait bien gommer. En gros, on va trouver dans ce congrès des récits qui sont de l'ordre l'être humain a un rapport charnel à l'oralité, à la musique, à la voix, mais on lui a appris à maîtriser ça. Or, la langue des signes, ils ont gardé ce côté très sensuel, et ça va poser un problème également.
Vous avez travaillé sur les dialectes du Valais. Les langues minoritaires, les langues régionales, à cette époque-là, ne sont pas non plus très mises en valeur.
Non, parce qu'on a aussi, on a aussi l'idée que ce qui fait nation, c'est une même langue. Et donc, c'est aussi une des motivations du Congrès de Milan, c'est on veut faire une nation, et donc on veut supprimer toutes les autres formes de langue. Ce qui est un vrai problème sur l'enrichissement de la langue officielle que nous parlons, vous et moi, Jean, c'est nous avons perdu beaucoup dans notre langue de perdre l'enrichissement des langues régionales.
Quoi qu'il en coûte, vous apprendrez à parler, quitte à ce qu'on vous entrave.
Ah oui, les mains des enfants sourds vont être, j'allais dire menottées, mais entravées, effectivement liées pour pas qu'ils s'en servent, de la même manière qu'on tapait sur les bretons lorsqu'ils parlaient breton dans la cour de l'école.
Il y a du légendaire en même temps dans ce récit, ça arrange les bretonistes de parler du sabot qu'on se passait à l'école en cours de récréation
comme
quand on avait le malheur de parler breton. Mais enfin, ce qui reste, c'est que la lecture et l'écriture vont être négligées. Puisque ces sacrés sourds qui se sont divisés en différentes catégories, les plus sourds étant qualifiés d'arriérés et d'inaptes, n'arrivent pas à oraliser.
Non, en fait, ce que l'histoire nous démontre, en même temps, ce qu'il faut préciser, c'est que l'histoire de la langue des signes, elle a été écrite par des entendants. Donc, elle est déjà, on n'a peut-être pas toutes les informations, mais elle nous démontre qu'à chaque fois qu'on va interdire la langue des signes à des personnes malentendantes ou sourdes, on les renvoie au statut d'idiot. En leur interdisant l'accès au savoir et au développement d'une pensée. Quand on supprime une langue à quelqu'un, tout simplement.
Peu d'autobiographies de sourds, en effet. Berthier, un fidèle, trois générations après de l'abbé de l'Épée, en avait écrit une qui a disparu. Benjamin en a publié une. Et puis, beaucoup plus récemment, dans la collection Terre humaine, celle d'Armand Pelletier, qui raconte que rendant hommage sur sa tombe Audit Berthier, il voit surgir le curé du village, ils essayent d'échanger. Le curé lui explique qu'il a été un ancien moine. Armand Pelletier n'en croit pas ses oreilles, allais-je dire. Il y avait donc des entendants qui volontairement utilisaient, par exemple dans les monastères cisterciens, un vocabulaire en signe. Ici, le frère Thibault, au pays d'ici, France Culture.
Par exemple, le signe typique, il y en a encore aujourd'hui qui s'en sert, c'est pour demander les choses au réfectoire. Demander du pain, demander du vin, dire que l'autre n'a pas sa ration, trucs dans ce genre-là. Et on peut arriver, même, bien il y en a certains qui étaient spirituels. Et puis d'autres... Il y avait un signe pour le faire. Et un signe pour le chaud. Bon, avec faire chaud, ça veut dire à faire chaud. On était d'une virtuosité, parce qu'on en fabriquait en plus. Il y a tous ceux qui sont dans...
Mais des signes, pourquoi dire ?
Toute la vie pratique. Et alors, en composant par une espèce de programmation avec les vieux signes classiques, on fabriquait des tas de trucs.
Une des raisons de la créativité, c'est d'ailleurs qu'on observe l'autre, qu'on est capable de l'imiter, qu'on élargit son champ visuel, qu'on note tout ce qui peut se produire et qu'on le traduit en langue des signes. Karel Menine.
Tout à fait. D'ailleurs, si on revient au tout début de l'humanité, hein, on dit que la langue des signes est née dans le moment où l'individu essaie de communiquer, de montrer et de gestualiser, accompagnant de sons qui sont décrits, qui vont devenir langage. Mais ce qui est intéressant dans l'extrait que l'on vient d'écouter, c'est qu'effectivement, au VIe siècle, la Confédération bénédictine va utiliser qui est sous le coup de la règle de Saint-Benoît du silence, va créer la langue des signes et que cette LSM, comme on l'appelle en code, la langue des signes des moines, est aujourd'hui très proche de la LSF, qui est la langue des signes française, où on retrouve des gestem, qui sont donc ces gestes qui signent un mot de manière très commune. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est dans cette règle d'une langue qui est à l'économie, qui est à l'économie de gestes, qui est qui est sobre, qui a la valeur de discrétion, et que en fait on est dans une période qui est le Moyen Âge, qui va se montrer plutôt bienveillante vis-à-vis des sourds et de la langue des signes.
Alors les monastères de vieille extraction ont du mal à se maintenir, et de toute façon les moines aujourd'hui sont sortis du grand silence et de la langue des signes monastique. Il reste peu. C'est une référence pour les sourds d'aujourd'hui. C'est pas vraiment un point d'appui, non plus que celui-ci que vous avez tenu à signaler. Nous passons maintenant l'océan. Nous sommes en Amérique du Nord, chez les Indiens. C'est la voix de Daniel Dubois.
Le langage par signe était l'espéranto des Indiens des plaines, clé des relations intertribales. Ces tribus venant d'horizons très différents parlaient de nombreux dialectes, regroupés en six langues distinctes. Ces conversations étaient de véritables symphonies de mouvements et de gestes qu'animait une suite de signes gracieux et précis, se succédant à un rythme rapide, d'où se dégageait une vraie poésie du langage imagé. La pictographie était la forme écrite du langage par signe. Chaque signe représentait un mot ou une idée, jamais une lettre.
Les Indiens des plaines sur TF1, c'est un son que vous avez choisi d'ailleurs, Karel Menine.
Mais j'adore ce son parce qu'en fait, à l'image, on peut retrouver d'ailleurs ce son sur les archives de l'INA qui sont en ligne. On voit Buffalo Bill qui discute avec un chef qui s'appelle Iron Tail et ils communiquent en langue des signes. Et ils sont tous les deux assis sur de fauteuils et ils ont une langue commune et je trouve ça assez fascinant parce que ça replace la langue des signes dans son réel statut de langue.
Et vous parliez de la communauté bénédictine, ici il s'agit d'échanges intertribaux.
Oui, mais est-ce que c'est pas toujours un peu le cas ? C'est-à-dire c'est une langue qui est dans une communauté donnée, alors tribal ce serait peut-être un mot qu'on peut appliquer dans l'exemple qu'on vient d'entendre, mais pas forcément chez les moines, mais qui est quand même une communauté qui a des critères communs. Et c'est à la fois un microcosme et à la fois, la langue des signes, elle a une histoire universelle. Donc de microcosme en microcosme, elle est une langue qui, par ses particularités, a une généralité. Mais là, elle est effectivement une langue tribale où, la voix off parle d'espéranto. Disons qu'elle est une langue qui a l'avantage d'être moins académique et plus souple et d'être, même si elle a des particularités de région ou de pays, on sait que quelqu'un qui parle la langue des signes en Espagne et quelqu'un qui parle la langue des signes en Chine va plus rapidement se mettre en communication qu'un Chinois et un Espagnol. Donc c'est une langue à la fois intertribale, mais en même temps qui a une base universelle.
À un moment, il y a eu un geste uno, une sorte d'espéranto de la langue des signes. Mais ne parlons pas du renouveau de la langue des signes de suite, parlons de la manière dont elle a pu se maintenir. Les traditions des Indiens, comme les traditions monastiques, sont des traditions perdues. La langue des signes s'est maintenue clandestinement dans les lignées de sourds, parce que souvent, les sourds ont le sentiment, quand ils ont une, deux, trois générations de sourds derrière eux, de constituer une sorte d'aristocratie, et d'aristocratie du secret d'ailleurs peut-être.
Alors, très certainement, d'ailleurs, ça serait intéressant de voir dans l'histoire à quel endroit la langue des signes a pu être une langue du secret. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sourds aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils l'utilisent des fois pour dire des choses que d'autres ne pourront pas comprendre. Mais je pense que à chaque fois qu'on a finalement essayé de... La langue, elle est vivante. La langue des signes, elle est aussi vivante qu'un dialecte. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très spontané qui a un rapport au temps présent immédiat. Et puis, elle a, en l'occurrence, une nécessité qui, du coup, je pense, favorise sa survie. C'est que, pour des gens qui n'entendent pas, ils ont besoin de cette langue. Donc elle va survivre dans des poches de résistance à chaque fois qu'on va l'opprimer. Donc elle va se déplacer, elle va d'une certaine manière s'éteindre et être moins officielle, mais elle va toujours être un peu en sous-marin pour pouvoir ressurgir à un moment donné.
On-off. Mais alors, si on parle américain, aux États-Unis, justement, les Américains étaient venus chercher la langue des signes à l'Institut Saint-Jacques et ils l'ont maintenue en dépit du congrès de Milan où ils étaient sous-représentés. Et la langue des signes a cohabité avec d'autres formes d'éducation des sourds. Puis, il y a un goût des petites sociétés chez les Américains, de même qu'il y a des universités noires. À partir de 1860-1867, il y a des universités sourdes. Il y en a une à Washington, des écoles sourdes. Votre choix porte là sur un fait de la fin du 19e siècle. C'est un film bien connu, un peu mélo, hein, Carrel.
Ouais, alors, le film est mélo, effectivement, mais c'est l'histoire...
Miracle en Alabama, oui.
Oui, c'est l'histoire vraie d'Hélène Keller, qui était cette jeune femme aveugle et sourde, née dans une famille bourgeoise américaine. Le fait qu'elle soit bourgeoise est en détail, mais ça va donner la possibilité aux parents de lui prendre une jeune éducatrice particulière, qui s'appelle Anne Mansfield Sullivan, et qui va... considérer qu'on peut sortir Hélène Keller de son monde de néant en lui communiquant la langue des signes. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire d'Hélène Keller, c'est qu'elle va acquérir non seulement une langue, mais elle va devenir une conférencière, une écrivaine, une militante.
Oui, mais vous n'allez pas nous priver du moment miraculeux de découverte. Alors, on est devant une pompe à eau, l'eau va bientôt venir, elle va monter, et alors faut-il l'oraliser ? C'était le premier désir de son institutrice, Anne.
Allons, vas-y. Pompe. Non, elle n'est pas là. Pompe. Épelle, E-A-U. Épelle. C'est son nom également. Épelle, E-A-U.
Et elle va réussir par la langue des signes ce qu'elle ne peut réussir par l'oral. Et c'est le bonheur du miracle pour Anne.
Oui. Oh, ma chérie. Oui. Pompe. Arbre. Marche. Madame Keller. Madame Keller.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La langue des signes avec Carrel Ménine.
Alors, ce que j'aime beaucoup dans cet extrait, même si effectivement il est un peu, il y a des violons derrière qui l'accompagnent, qui sont peut-être un peu en trop. Il romantise beaucoup l'histoire, mais d'abord le fait est vrai. Hein, c'est comme ça que Hélène Keller va découvrir la langue des signes. C'est parce qu'elle a cette jeune éducatrice qui la force à signer ce qu'elle veut, l'eau en l'occurrence dans l'exemple qu'on vient d'écouter. Mais ce que je trouve très beau aussi chez Hélène Keller, c'est qu'elle va énormément écrire sur ce que ça a été pour elle la langue des signes. Et c'est, elle dit la langue du cœur, c'est-à-dire la langue sensible, la langue des émotions. Et c'est vrai que la langue des signes, elle s'exprime dans une corporalité qui va du haut de la tête au poumon, en gros, hein, c'est l'espace physique dans lequel elle s'exprime. Et elle est cette gestualité sensible qu'on va lui reprocher à certaines époques de l'histoire, mais qui, là, en l'occurrence, va faire qu'Hélène Keller va devenir une militante de cette langue en tant que telle.
On pourrait parler de la forme de l'eau, puisqu'on était dans l'eau et dans le cinéma. y a un monstre qui surgit de l'eau et puis il dialogue avec des signes. Mais alors, puisque on parle d'eau, on va en venir à l'Afrique. Les reportages de vous qu'on va entendre maintenant, Karel Menin, se déroulent au Burkina Faso, où depuis 30 ans, à l'initiative d'un pasteur sourd, le pasteur Kafando, s'est mis en place un enseignement inclusif. Voici la veuve du pasteur qui chante l'eau, toujours l'eau.
Anna parvanda vatukwila amamun parvanda vatukwila hela mamun menga tibumbe kwila noria weta lomarkika kolom kolom kika kolom kolom kika hela mamun menga tibumbe kwila noria weta lomarkika kolom kolom kika kolom kolom kika yela mamun menga tibumbe kwila noria weta lomarkika kolom kolom kika kolom kolom kika.
Au début de notre mariage, les enfants sourds qui venaient à la maison, quand ils viennent pour voir mon mari qui est leur professeur et que je n'arrive pas à parler en langue des signes, ils se fâchaient. Ils disent, mais ta femme ne nous comprend pas, pourquoi elle ne comprend pas la langue des signes? Pourquoi? Ils ne se demandent pas pourquoi je n'apprends pas, mais pourquoi je ne comprends pas. Donc pour eux, je dois, c'est une obligation de comprendre leur langue. Et effectivement, la langue des signes aujourd'hui, c'est vraiment ma vie. Nous sommes en train de nous battre, et aussi bien les bénéficiaires eux-mêmes, je veux dire les sourds eux-mêmes, les malentendants eux-mêmes, tous ensemble, nous asseyons et nous discutons pour voir dans quelle manière on peut, et même les petites histoires, comment les reproduire en langue des signes pour que ça soit plus accessible.
Alors nous asseyons, nous sommes au Céphiz, à Ouagadougou. Racontez.
Alors ça, c'est vraiment une grande découverte, le Céphiz Benaja. Donc une partie du travail que je fais, Jean, c'est de prendre des patrimoines littéraires et de venir les écrire dans l'espace public pour qu'ils soient repartagés. Et ce que j'aime beaucoup dans l'extrait de Thérèse qui chante ce chant de l'eau, c'est que par hasard, en travaillant sur ces patrimoines littéraires, je découvre ce chant, je l'écris sur le mur de l'école et elle le voit et elle est très émue parce qu'elle retrouve une chanson qui est la chanson des femmes qui vont effectivement aller chercher de l'eau au puits. Alors le Céphiz
Benaja. La chanson qu'on a entendue, la
exactement.
Gloria.
Exactement, qu'elle chante. Le Céphiz Benaja, c'est donc cette école qui va décider, à l'instigation du pasteur, de mélanger tout le monde dans une même forme d'éducation. Donc on va prendre des enfants sourds, on va prendre des enfants entendants, on les met à l'école et on fait en sorte qu'ils aient le même enseignement. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une classe, vous avez donc à peu près 60 élèves et des professeurs qui sont bilingues, voire trilingues, puisqu'il y a le moré, le français, la langue des signes. Et donc le Céphiz va jouer la carte de l'inclusion, ce qu'on pourrait appeler vraiment de ce mot d'inclusion, mais qui est un peu plus que ça, que je dirais plutôt qui est du partenariat, qui est de la mixité de langues, où il n'y en a pas une qui domine l'autre, et où du coup, la langue des signes n'est plus du tout la langue d'un handicap, elle est une langue parmi d'autres.
L'enseignement en plusieurs langues, c'est un des secrets de la réussite scolaire. On va vous dire ça à Diwan, en Bretagne,
oui, les linguistes
pour reparler des langues régionales. Ce qu'on va entendre là, il faut que vous nous l'expliquiez. C'est un cours.
Mm-hmm. C'est l'extrait d'un cours où on entend une professeure qui est sourde et qui a donc appris à oraliser son enseignement pour les enfants qui sont parmi les enfants qui sont les entendants.
Je fais un signe à Loïc Frapso. Vous pensez que
c'est la langue des signes.
On l'utilise aussi
à
comme
la
ça
radio.
À la radio. Donc on lance le cours.
Qui va venir lire? Qui va lire? Calcule le prix du pauvre et celui de la pintade. Deuxième, Zico dispose de 25 vaches et 17 taureaux. Ce troupeau donne 3,04 litres de lait par jour. Par animal, calcule la quantité de lait fourni à une chienne.
Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait calculer la trajectoire de la fourmi. La radio, c'était une question que posait Bruno Duvic au début de l'émission, ne peut pas rendre compte de tout ce qui se passe, elle ne peut pas rendre compte des regards et des gestes qui doivent s'échanger pendant ce cours.
Non, mais d'ailleurs, l'écriture non plus, c'est-à-dire que traduire une langue des signes, c'est très compliqué, parce que comment vous rajoutez le sourire, le sourcil, l'expression du corps, et c'est toute la richesse. Quand vous faites, je vous fais le signe de l'arbre, par exemple, c'est un bras qui bouge, on voit l'arbre qui est dans le vent.
Enfin, moi, je le vois, oui.
Vous le voyez, et puis comme en plus, on a l'avantage dans votre émission de ne pas être filmé, il faudra l'inventer, l'imaginer pour les autres, mais c'est bien de ne pas tout savoir et de ne pas pouvoir tout traduire. Mais la langue des signes, ce qui est très fort dans le Séfis Benajin, et ce que raconte très bien Thérèse, c'est que comme elle est complémentaire de notre langue, elle a toute raison d'exister comme une langue. Et leur expérience de 30 ans, moi, quand j'assiste au cours, je vais aller voir les professeurs en disant « Dis donc, est-ce que vraiment je peux mettre mon enfant avec vous ? Parce que ça m'a l'air extrêmement lent, votre enseignement, ça va être pénible pour eux. » Et en fait, ben non, leur taux de réussite en termes de pédagogie est excellent.
Alors justement, à l'appui de ce que vous dites, le témoignage, les chiffres produits par Thérèse.
Petit à petit, en tout cas 6 années durant, et les enfants se sont présentés au premier examen du CEP. Et à notre grand étonnement, on avait présenté 6 candidats et tous les 6 ont réussi au CEP, au certificat d'études primaires. Et là, en tout cas, ça a donné un boom autour de nous et les gens qui ne croyaient pas trop, en tout cas, se sont étonnés. Et du coup, les gens ont dit, s'il y a des enfants sourds qui réussissent 100%, alors si nos enfants sont là-bas, ils doivent mieux réussir qu'eux. C'est comme ça que, petit à petit, le Séfis a commencé à refuser du monde à son sein. Et présentement, de 12 et de 7, 12 entendants au départ et les 7 enfants sourds, qui ont été inscrits. On est passé actuellement, on est à 4179 élèves et apprenants, dont 500 en situation de handicap.
Alors attendez, 500 en situation de handicap, pour reprendre le vocabulaire qui s'est imposé aussi au Burkina Faso, et 3200, 3600
4500 élèves en tout, dont à peu près 500.
Alors, donc une énorme majorité d'entendants.
Ah, complètement. Puis en plus, ce qu'elle ne précise pas, Thérèse, c'est qu'aujourd'hui, ce sont tous les handicaps qui sont là, c'est-à-dire les handicaps visuels, les handicaps physiques et les handicaps mentaux. C'est-à-dire que dans la classe, tout le monde est mélangé. Et franchement, on aurait beaucoup à apprendre de voir les réussites qu'ils peuvent avoir d'éducation à cet endroit-là.
Oui, mais moi, je reprends les mêmes questions classiques qui étaient posées à l'abbé de l'Épée, déjà, en 1780. Ça va bien au niveau du CEP, du certificat d'études primaires. Mais quand il s'agit d'aborder un vocabulaire plus compliqué, des notions plus abstraites, quand il s'agit d'imaginer d'aller à l'université.
C'est là où le Séfis est fort, parce qu'il a une histoire de 30 ans. Et donc aujourd'hui, les étudiants du Séfis, ils ont des traducteurs qui sont leurs copains, leurs camarades. Et donc vous avez des couples, des binômes qui se forment où moi je veux être médecin, toi aussi, super, on va à l'université ensemble. Et c'est exactement ce qui nous manque à nous. On manque de ces traducteurs qui permettent aux personnes malentendantes ou sourdes d'accéder à un savoir qui n'est pas traduit par la langue des signes officiellement.
Ce qui se passe davantage peut-être pour les aveugles que pour les sourds. Je peux terminer avec une anecdote, puisqu'on a fait l'histoire de la famille de l'abbé de l'Épée. L'un de ses grands témoins, Berthier, en 1848, se présente aux élections législatives. Mais alors, les électeurs lui disent « Mais enfin, t'es sourd, tu peux pas devenir député, et alors ?»
Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait qu'on en ait plus de députés qui soient sourds.
Et avec un traducteur.
Avec un traducteur.
A-t-il dit, Berthier, j'aurai un collègue qui me traduira.
Bien sûr, qui était, celui qui pratiquait la langue des signes avec lui à l'époque.
Ce que j'ai pas su faire quand vous avez désigné le mouvement de l'arbre. Karel Ménine, merci. Cette émission a été préparée par Adèle Kaito, Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco. À la réalisation, Audrey Ripouille, la technique, Loïc Frappesot. C'est chez vous, Mathieu Vidard.
Oui, Jean, l'espoir d'une vie longue et bonne, la science du vieillissement, pour que nous puissions peut-être présenter encore pendant très très longtemps des émissions de radio.
Ça, les auditeurs seront peut-être lassés quand même.